Vous écoutez, on lit pour vous.
La vie rêvée des arbres. Un texte de Valérie Borde, paru en avril 2024 dans l'Actualité. Non, les grands arbres ne prennent pas soin des petits, affirme Christian Messier, professeur d'aménagement forestier et biodiversité à l'UQAM et à l'Université du Québec en Outaouais. Avec 34 collègues nord-américains et européens, le spécialiste a signé l'automne dernier un article scientifique qui démonte pièce par pièce les thèses popularisées par le forestier allemand Peter Wollenband, qui a connu un succès planétaire avec son livre « La vie secrète des arbres », publié pour la première fois en 2015, et par la biologiste Suzanne Simard, professeure à l'Université de Colombie-Britannique et auteure du best-seller « À la recherche de l'arbre-mère », paru en 2022. Il y a tellement de raisons valables de prendre soin des forêts. On n'a pas besoin d'en inventer, s'exclame Christian Messier. L'Actualité s'est entretenue avec lui. Suzanne Simard, avec qui vous avez déjà collaboré, a évoqué de possibles transferts de nutriments entre arbres par des champignons formant de vastes réseaux sous le sol des forêts. Remettez-vous cela en cause? Son étude phare, publiée dans la revue Nature en 1997, était sérieuse et apportait des données intrigantes. On savait déjà que des champignons mycorhiziens vivaient en symbiose avec les racines des arbres, mais en utilisant une technique à base d'isotopes du carbone, Suzanne Simard avançait l'hypothèse étonnante que les sapins de Douglas échangeaient du carbone entre eux par ces réseaux. Par la suite, plusieurs autres chercheurs ont fouillé cette question, mais ils sont arrivés à des résultats moins clairs. Personne n'a trouvé la preuve que des arbres tirent avantage de ce transfert, s'il existe. Dans son livre et ses conférences, Suzanne Simard prétend que les arbres matures sont altruistes et maintiennent en vie les semis environnants. Mais c'est une interprétation abusive de ses études. En se basant notamment sur ses résultats, Peter Wollenband, qui n'a jamais été un scientifique, a bâti tout un mythe sur la vie des arbres, qu'il présente comme des êtres doués de sentiments et pouvant ressentir la douleur. C'est de la désinformation pure et simple. Ces livres ont contribué à sensibiliser la population et même des politiciens à la cause des forêts. N'est-ce pas une bonne chose? Non, car la fin ne justifie pas les moyens. Il faut protéger les vieilles forêts, mais ne plus couper d'arbres matures dans les forêts en exploitation, comme ces deux auteurs le réclament, reviendrait à favoriser les espèces tolérantes à l'ombre et donc à perdre de la diversité. Or, celle-ci est essentielle pour rendre les forêts plus résilientes face aux changements climatiques ou aux espèces envahissantes. De nombreux scientifiques ont déjà dénoncé les idées farfelues de Wollenband, qui a bâti tout un business autour de ses thèses et qui a l'oreille de certains politiciens, surtout en Europe. Suzanne Simard aussi va trop loin dans ce qu'elle prétend, car la science n'en est pas là. Mais les deux refusent tout dialogue. Il est rare que des scientifiques se mobilisent pour critiquer un de leurs pairs dans une revue savante. Pourquoi avez-vous signé cet article? Nous avons déjà dénoncé publiquement ces idées comme étant non scientifiques, mais elles continuent de se répandre. Cela décrédibilise la recherche sérieuse dont on a besoin pour mieux gérer et préserver les forêts. L'objectif de Simard et de Wollenband est d'arrêter la coupe forestière parfois abusive, mais mes collègues et moi ne pouvons pas accepter que l'on déforme ainsi la science. C'était « La vie rêvée des arbres », un texte de Valérie Borde, paru en avril 2024 dans l'Actualité.
Safia Nolin en mode pop de chambre. Une entrevue de Philippe Granger parue le 26 juillet 2023 dans le magazine Fugue. Cela fait maintenant presque 10 ans que le Queer Songbook Orchestra est en marche, offrant des performances inédites tirées du répertoire musical LGBTQ+. Pour son premier spectacle à Fierté Montréal, l'ensemble de pop de chambre sera accompagné par nul autre que Martha Wainwright et Safia Nolin. Cette dernière a bien voulu se livrer en vue du spectacle. Comment présenterais-tu ton spectacle avec le Queer Songbook Orchestra? Safia Nolin. Le Queer Songbook Orchestra, c'est un orchestre qui se base sur des chansons qui ont été super importantes pour la communauté queer. Moi, j'avais déjà fait un spectacle avec eux et je trouve ça vraiment nice ce qu'ils font. Ils réarrangent des chansons de manière spectaculaire, ils les remettent à leur sauce et ça transforme le meaning. Ça fait remettre en question plein d'affaires. C'est des belles personnes et je suis vraiment contente de faire ça. C'est full nécessaire, ça met en lumière l'art queer et ce que ça représente pour les gens. Quel est ton souvenir de ta dernière collaboration avec eux? Safia Nolin. J'avais chanté Lesbian Breakup Song en duo à la Sala Rossa. C'était fou. Cette expérience m'a permis de rencontrer du monde vraiment nice, comme un gars qui s'appelle The Queer Pianist et qui vient de Toronto, le pianiste Darren Creech. C'est un beau projet. Je n'avais jamais entendu parler de ça. Depuis ce temps-là, j'essaie de les suivre le plus possible parce que c'est magnifique. Martha Wainwright se joint cette fois à vous. Ce n'est pas la première fois que tu joues avec elle, non? Safia Nolin. La première fois que j'ai rencontré Martha, c'était à Tout le monde en parle, et après ça, on s'est recroisés plein de fois. Je suis allé jouer à sa salle. On a joué en double plateau à la noce. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Je l'aime vraiment beaucoup. C'est une personne qui est vraiment talentueuse, vraiment généreuse, très authentique, qui s'encrisse vraiment beaucoup de tout ce qui est dans le paraître. Elle est elle-même et c'est super inspirant. J'adore faire des trucs avec elle, donc je suis super excité de faire ce show-là avec elle aussi. Tu es désormais une icône LGBTQ+, contemporaine au Québec. Toi, en avais-tu des icônes en grandissant? Safia Nolin. Pas vraiment. Il y avait Pierre Lapointe et Ariane Moffat qui ont fait de quoi dans ma génération. Après ça, moi, c'était plus dans les séries où il y avait des personnages queers qui étaient normalisés comme Grey's Anatomy, Glee. Ça, ça m'a vraiment aidé dans mon adolescence. Ça, Internet et la culture pop. Penses-tu que les artistes LGBTQ+, ont un traitement différencié? Safia Nolin, bonne question. Dans la vie en général, c'est sûr que oui. En France, énormément. Au Québec, c'est dur à dire. Tu sais, la fable de la grenouille dans l'eau bouillante, ça me fait penser à ça. Je pense qu'on ne sait pas ce que les gens pensent. On ne sait pas si les gens font du tokenisme. S'ils ne font pas du tokenisme et qu'ils font l'inverse, c'est dur à dire. J'imagine que c'est sûr que oui. On va se dire la vérité, la communauté queer n'est pas traitée pareil que les gens qui ne sont pas queers, et ce, partout, dans toutes les sphères de la vie. Les médias et tabloïdes partagent parfois ta vie personnelle et l'état de tes relations. Trouves-tu que les gens sont intrusifs? Safia Nolin. Je ne trouve pas que les gens sont intrusifs, c'est juste que je pense que n'importe qui de n'importe quelle communauté qui est ostracisée a un sentiment de culpabilité et de responsabilité. Moi et la chanteuse française Pomme, on est allés à la disque ensemble en 2017. C'était super important pour moi. Ça valait toute la peine de représenter un couple queer dans les médias. Un couple queer différent aussi, parce qu'on ne se ressemble pas du tout. On ne vient pas du tout du même background. C'est important pour moi la représentativité, quitte des fois à perdre un peu de ma vie privée. Quelques mots pour conclure l'entrevue. Safia Nolin. La communauté queer et le mot queer, ça a changé ma vie. Je n'ai jamais senti que je faisais partie de quelque chose et c'est une communauté qui est super importante pour moi. J'espère qu'on va la protéger et que les gens vont aller voir les shows à la Fierté et s'intéresser à l'art et la culture queer dans le monde, parce que c'est vraiment puissant. Tout ça sans oublier le côté intersectionnel de tout ça. C'était Safia Nolin en mode pop de chambre, une entrevue de Philippe Granger, parue le 26 juillet 2023 dans le magazine Fugue.
Virginie Fortin, Raviver la flamme, un texte d'Isabelle Beaulieu, paru le 11 juin 2024 dans les libraires. Humoriste et comédienne, Virginie Fortin, avant de fouler les planches, fait des apparitions sur une patinoire, celle de la LNI, Ligue nationale d'improvisation. Elle a également étudié les langues et la littérature à l'université, bien que depuis quelque temps déjà, elle se soit éloignée des livres, occupée par mille et un autres projets, dont l'écriture et la présentation de son premier spectacle solo, Du bruit dans le cosmos, édité en mars 2024 chez Atelier 10 et agrémenté des remarques de la créatrice. Pour les besoins de l'entrevue, cette dernière a bien voulu retourner à ses premières amours et nous confier ses préférences en matière de lecture. Virginie Fortin l'avoue dès le préambule, elle ne croit pas avoir lu un seul livre ces deux dernières années. Son travail ayant pris beaucoup de place, ainsi que la venue d'un premier enfant en septembre dernier, l'espace lui a manqué et les uniques pages qu'elle s'est permis de lire ces mois-ci sont celles sur l'alimentation et le sommeil des nourrissons. Mais il y a à peine trois décennies, notre invitée, elle-même petite fille, prenait un immense plaisir à lire « Ma babouche pour toujours » et autres trésors des éditions La Courte Échelle. Cet enthousiasme ne s'est pas démenti tout au long de sa jeunesse, et il la conduira à choisir les lettres et à faire un baccalauréat. Le roman « Le nez qui voque » de Ducharme, « L'homme à la langue dansante » et au sens pluriel qu'aucun auteur s'essayant au pastiche n'a vraiment réussi à égaler, reste un titre phare pour l'humoriste. Bien qu'il s'agisse de la deuxième œuvre publiée de Régent Ducharme, elle fut la première qu'il ait écrite. Le narrateur, un adolescent du nom de Mille Mille, je trouve que c'est mieux que mille kilomètres, partage avec son ami Châteauguay, qu'il considère à l'égal d'une sœur, le vœu de mourir afin de se soustraire au devenir adulte. Comme souvent dans les livres de l'écrivain, l'esprit vrai et authentique de l'enfance prime sur le monde mensonger des grandes personnes. Anticiper le futur, les univers dystopiques de l'Américain Kurt Vonnegut trouvent un écho chez Virginie Fortin, à commencer par « Abattoir 5 », un classique de la littérature de science-fiction. C'est vraiment mon genre, se transposer dans un futur qui n'existera peut-être jamais, mais qui sert à faire un commentaire social sur le présent dans lequel on vit, explique la comédienne. Le présent de Vonnegut était dans les années 1960, mais c'est encore au goût du jour. Par l'intermédiaire du personnage Billy Pilgrim, l'auteur effectue des voyages à travers les époques et les lieux, menant son protagoniste jusque dans le vaisseau de Tralfamadorien, des extraterrestres ayant une tout autre notion de la quatrième dimension que la nôtre. Malgré l'apparente invraisemblance des événements, l'auteur réussit à préserver une cohérence et a exprimé un discours antimilitariste des plus percutants. Cette immersion dans la sphère décalée de cette figure de proue de l'anticipation amène notre libraire d'un jour vers le maître du Haut-Château de Philippe K. Dick, autre bonze de l'ASF. Dans cette uchronie, revisitant les paramètres de la Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne remporte la bataille, aidée par les Japonais, tandis que la première a mainmise sur la partie est des États-Unis, les deuxièmes occupent celle de l'Ouest. Pourtant, un bruit court à propos de l'existence d'un livre véhiculant la victoire des Alliés sur les forces nazies, permettant à l'auteur d'aborder les détournements de vérité. Oui, le romancier connaît les hommes et sait qu'ils ne valent pas cher. Ils sont dominés par leurs testicules. Ils hésitent par couardise à faire quoi que ce soit. Ils sont prêts, par rapacité, à trahir n'importe quelle cause. Il suffit de battre du tambour et tout le monde suit. Une fable caustique au repère trouble qui a valu à l'écrivain le prix Hugo en 1963. À l'adolescence, sans comprendre la cause exacte de cette fascination, Virginie Fortin ressent une forte attirance pour la Russie, la poussant à explorer sa littérature à l'université. Intéressée par l'apprentissage des langues, elle trouve dans le russe une complexité stimulante qui la fera tenter la lecture d'Anna Karénine de Tolstoï dans sa version originale. J'ai rapidement abandonné. Il fallait que je cherche dans mon dictionnaire à toutes les deux phrases, témoigne l'humoriste. Un défi un tantinet trop ambitieux. Le roman fait plus de 900 pages, la forçant à opter finalement pour la traduction. Sa première découverte des auteurs russophones se fit avec « La dame de pique » de Pushkin, où « Jeu, mystère et folie » sont la combinaison parfaite à la construction d'une nouvelle dont Dostoïevski, le contemporain de l'autre, dira qu'elle était un chef-d'œuvre de l'art fantastique. Parlant de l'auteur des frères Karamazov, Virginie Fortin n'a pu passer à côté de ce grand peintre de la conscience qui signe avec ce pavé une illustration des différents dilemmes moraux auxquels l'être humain doit faire face. Rire et penser. En 2018-2019, Virginie Fortin écrit et présente son premier one-woman show du bruit dans le cosmos, dont le texte, augmenté des notes de l'artiste, est publié en mars 2024, une pratique pas si commune dans l'édition au Québec. Parfois, on oublie que du stand-up, à la base, c'est écrit, précise-t-elle. Et le publier, c'est que je veux que ça reste dans sa forme la plus tangible. J'ai aussi été inspirée par Stuart Lee, mon humoriste préféré, qui a publié tous ses shows. On dirait que c'était comme mon petit rêve d'avoir cet objet-là comme lui il a fait. Ainsi, nous avons accès dans sa formule intégrale à l'humour, mais aussi aux réflexions de l'autrice qui ne manque pas d'interpeller son public sur les questions de la répartition des richesses, des paradoxes que nous possédons tous et, sur ça, le mystère demeure immuable, notre présence sur la planète Terre. Avant de devoir abandonner la lecture, momentanément, espérons-le, Virginie Fortin se rappelle les moments forts passés en compagnie de Rue de Kim Thuy, récit d'une immigration écrit en fragments et raconté dans une sobriété qui laisse l'espace nécessaire pour qui filtre l'émotion pure. Même amour en ce qui concerne La femme qui fuit d'Anaïs Barbeau-Lavalette, qui retrace la vie de sa grand-mère maternelle, partie un jour malgré des enfants en bas âge. Avec les bouts épars que l'écrivaine a pu rescaper, elle compose un livre entier où, à défaut d'avoir toutes les réponses, elle fait du moins le pari de colmater quelques brèches. Dans un tout autre genre, les cinq tomes de la série H2G2 de Douglas Adams, conjuguant science-fiction et humour, trônent absolument en tête du palmarès de l'artiste. De toute évidence, Virginie Fortin aimerait beaucoup retrouver ces moments précieux à flâner à la librairie Raffin, rue Saint-Hubert, près de chez elle. Suspendre les heures, se laisser inspirer, conseiller, pour ensuite ouvrir les pages et réfléchir, s'émouvoir. Parions qu'elle y arrivera, et plus tôt que tard, car une fois la félicité des livres connue, jamais elle ne nous quitte tout à fait. On finit toujours par s'y redéposer. C'était Virginie Fortin, Raviver la flamme, un texte d'Isabelle Beaulieu, paru le 11 juin 2024 dans les libraires.
Le coin du livre, une famille élargie. Un texte d'Isabelle Beaulieu, paru le 5 février 2024 dans le magazine Les libraires. Le coin du livre fait flèche de tout bois et persiste. Voilà 65 ans que cette librairie, située à Ottawa, propose fièrement de la littérature francophone à la population, qui, cela dit, le lui rend bien puisque plusieurs visiteurs l'ont adopté, conférant au lieu le statut de service essentiel. Devenue une véritable institution, l'endroit n'est pas près de disparaître avec sa propriétaire, Nathalie Savard, et ses collègues, dont l'élan pour le livre ne fait aucun doute. La ville d'Ottawa comptant une majorité de citoyens anglophones, la librairie Le Coin du Livre demeure pourtant bien vivante avec son offre en français. Son secret réside en grande partie dans sa longue tradition d'un personnel attentif à sa clientèle et épris par tout ce qui a trait au livre, en particulier ceux écrits par des auteurs franco-canadiens. Citation : Je suis une passionnée de la littérature depuis ma tendre enfance et avoir vu mon papa dans ce milieu m'a toujours donné le goût d'y travailler pour partager cette passion. Fin de citation, soutient Nathalie Savard, l'actuelle propriétaire qui, en octobre 2022, a repris le flambeau de son père, Normand Savard. Ce dernier l'avait lui-même acquis de Maurice Lauzier, l'un des quatre fondateurs de la librairie, mais il y travaillait déjà depuis 1967, animé par une constante volonté, celle de faire connaître au plus grand nombre le livre francophone en Ontario. Enhardi par sa résolution, il déploie mille et un moyens pour parvenir à ses fins, tissant des liens avec les établissements scolaires et parcourant la province afin de gagner les différentes foires du livre, montant parfois jusqu'à Wawa à près de 11 heures de route d'Ottawa. Fièvre contagieuse. De son côté, Nathalie Savard prend part aux activités de la librairie peu après qu'elle a été vendue à son père. Citation : Je venais de finir le secondaire, précise-t-elle. J'ai fait des études collégiales en marketing seulement pour avoir un diplôme. Fin de citation. Ses connaissances dans le domaine lui seront cependant utiles, assurant à la librairie une visibilité toujours plus grande et agissant selon les valeurs qu'elle a toujours portées, soit de communiquer son profond attachement pour les mots des littératures franco-canadiennes. C'est pourquoi Savard fille n'hésite jamais à prendre parole à la radio ou à la télévision pour conseiller les lecteurs et rien ne la satisfait davantage que de voir certains d'entre eux passer le paillasson de la librairie pour se procurer les livres suggérés. Citation : Donner le goût de la lecture est le plus beau cadeau. Fin de citation, insiste la propriétaire qui, de cette façon, ressent l'impression du devoir accompli. Et ce ne sont pas les idées qui manquent pour faire en sorte de toujours étendre la palette des fidèles. Nathalie Savard exprime le souhait d'organiser un rendez-vous mensuel avec des auteurs, croyant en l'importance de la rencontre entre les écrivains et le public. Et parce qu'elle estime que les occasions de discussion autour du livre ne sont jamais trop nombreuses, elle aimerait parmi les prochains projets dans la mire instaurer un club de lecture auquel chacun serait bienvenu. Également, elle chérit l'intention d'agrandir la librairie de manière à pouvoir y aménager une aire de causerie où les gens auraient le loisir de prendre place et consulter les œuvres qui leur font envie. D'ailleurs, qui sont-elles ces personnes prenant plaisir à déambuler entre les rayons de la librairie? Des clients indéfectibles, des membres des effectifs scolaires, des parents et des grands-parents d'enfants en immersion ou qui désirent perpétuer la langue française. Citation : Depuis plus de 65 ans, la mission première a toujours été de génération en génération de promouvoir la littérature francophone dans un milieu minoritaire. Fin de citation, rappelle la propriétaire des lieux. Le livre jeunesse est le genre le plus vendu au coin du livre, suivi des romans canadiens pour adultes. Signalons du reste que les livres canadiens constituent 75 % de l'inventaire du magasin, éloignant toute ambiguïté quant au choix de ses priorités. Citation. Nous avons une très grande sélection de livres d'autrices et d'auteurs locaux. C'est très important pour nous de pouvoir en faire la promotion et de donner une bonne sélection à notre clientèle. Fin de citation, continue Nathalie Savard. Ce qui incarne à la fois un plaisir et un défi, car tenir debout en tant que commerce indépendant francophone en Ontario relève d'un petit miracle en soi. Surtout que la province ne bénéficie pas comme le Québec de la loi 51 sur le livre, qui engage les institutions à s'approvisionner dans une librairie agréée de leur région administrative, ce qui permet de bénéficier des profits engendrés grâce aux collectivités. Sans protection similaire, le bassin important de potentiels acheteurs que représentent les écoles, les bibliothèques, etc., est en droit de se ravitailler librement, même auprès de la maison d'édition, laissant pour compte les librairies qui représentent pourtant une courroie de transmission importante pour le livre et dont il faut prendre soin. Une fratrie accueillante. Pour pourvoir à la bonne marche d'une librairie telle que Le Coin du Livre, mais à tout s'avère nécessaire, à débuter par un sens de l'organisation bien aiguisé. S'ajoute à cela la gestion des employés et une administration impeccable. Citation. J'arrive dès 6 heures le matin pour lire mes courriels et faire les commandes des libraires, explique Nathalie Savard. Ensuite, les portes ouvrent à 9 heures et voilà que ma passion commence avec les suggestions à faire aux clients et les recommandations aux écoles. Fin de citation. Sans omettre la venue des représentants pour l'achat des livres. Mais le service demeure ce qui prime pour la libraire propriétaire qui peut alors se laisser aller à parler avec les lecteurs et remplir sa première mission d'amener à la découverte de nouvelles œuvres. Pour l'accompagner dans l'aventure, une équipe de libraires dévoués et un collaborateur de tous les instants, Benoît Surprenant, qui veille à toute la logistique informatique. Citation. Nous sommes une équipe qui s'entraide et nous formons une famille de travail. Fin de citation, affirme Madame Savard. En cela, la librairie s'inscrit dans la continuité, reconduisant le legs de père en fille pour élargir les rangs, lesquels se gonflent encore si on y inclut tous ceux et celles qui fréquentent Le Coin du Livre. C'était « Le Coin du Livre, une famille élargie », un texte d'Isabelle Beaulieu, paru le 5 février 2024 dans le magazine « Les libraires ».